m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, Julien, avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est parti pour deux heures avec ce soir autour de moi trois voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Pendant que Gérard Gachet joue du violon, bonsoir Gérard Gachet, journaliste, ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur et ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Bonsoir cher Marc, bonsoir chers auditeurs.
Bonsoir cher Damien Chalamel, avocat, grand spécialiste. Spécialiste du droit des marques. Hein, bonsoir Damien.
Bonsoir Marc, chers auditeurs.
Jean-François Coulon-Désart est là aussi, journaliste, écrivain. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Vous connaissez l'adresse par cœur, on les lira à l'antenne. Dans toute la mesure du possible, vous êtes comme d'habitude les bienvenus. Et encore plus que d'habitude, si je puis dire, parce que c'est ma dernière émission, figurez-vous, à Radio Courtoisie, en tout cas dans cette case horaire du vendredi soir, puisque je quitte Boulevard Voltaire pour rejoindre cet été Valeurs Actuelles. L'émission continuera donc à la rentrée, toujours avec Boulevard Voltaire, mais sans moi. Si vous avez apprécié nos émissions du vendredi soir cette année, si on vous a intéressé, agacé, piqué au vif, dites-le nous, agacé c'est sûr, hein, au moins quelques-uns d'entre nous, on vous lira avec attention. Vous êtes les bienvenus pour nous envoyer vos petits messages. Édito au programme ce soir. Édito, la petite cuisine pro-migrant et anti-extrême droite d'Utopia 56, toujours aux frais du contribuable. Notre grand dossier. 10 ans plus tard, les Anglais regrettent-ils vraiment le Brexit? Et nous recevrons Leslie Shaw, un Anglais qui réside en France et qui est proche du parti de Nigel Farage, qui s'appelle Réforme UK. On verra avec lui ce Brexit qui fête, comme vous l'avez vu, ses 10 ans. Pourquoi les écologistes sont-ils si frileux face à la climatisation? Alors ça, c'est une question que nous poserons à notre ami Philippe Charlaise, expert en questions énergétiques. Alors, il n'est pas avec nous ce soir, mais il sera au téléphone.
On est bien dans un studio de droite ici, parce qu'il y a la clim, hein.
Oui, c'est ça, absolument. Voilà. Merci. On a un studio de droite parce qu'il est climatisé, on a beaucoup de chance, c'est très agréable. Et donc, Philippe Charlaise nous expliquera pourquoi les écologistes sont si frileux face à la climatisation. Vous verrez, c'est très intéressant, il y a des raisons de fond. Insoupçonnables, nous aurons comme d'habitude notre clin d'œil culture, mais auparavant, notre petit tour d'actualité traditionnel. Qu'est-ce que vous avez retenu chacun de l'actualité de cette semaine? Jean-François Coulon-Désart, par exemple.
Eh bien, écoutez, ce que j'ai retenu cette semaine, c'est un rapport. Là, un rapport inédit que l'on doit à l'Institut Thomas More. On trouve
Thomas More.
Thomas More. Ouais. Moi, je dis More, pourquoi pas.
Vous êtes le seul, vous pouvez.
C'est pas Roger.
Oui, voilà, j'ai confondu. Bon, voilà, je vois que tout le monde est en forme aujourd'hui. Vous allez voir.
Tout va bien.
Alors, soyons sérieux. Ce rapport s'est intéressé aux 50, si vous voulez, aux 50 décisions qui ont coulé la France depuis Giscard d'Estaing. Donc, les 35 heures, la chute du niveau scolaire, les déficits, la dette, la sécurité. Alors, Thomas More, c'est un institut fondé en 2004 par l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon. C'est un cercle de réflexion indépendant, libéral-conservateur, apolitique. Et cette unité de Jean de Bello, qui était ancien rédacteur en chef des Échos et du Figaro, comme tout le monde sait.
Donc, directeur de rédaction.
Directeur de rédaction, absolument. Donc, ça commence avec Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1980, comme tout le monde sait aussi. Et c'est parti, c'est des dates qui claquent. 11 juillet 1975, le collège unique, premier acte du nivellement par le bas pour les élèves. À Giscard, on lui doit aussi une date terrible, le 29 avril 76, l'instauration du regroupement familial, autrement dit, le verrou migratoire est ouvert, tout saute. Et puis ça continue. Alors François Mitterrand, évidemment, la régularisation des sans-papiers le 11 août 81, etc.
Jean-François, on pourrait rappeler aussi l'avortement qui aussi, n'a pas passé aussi, pour la, voilà, le repeuplement du pays.
Voilà, absolument. Le 10 juin 83, l'abrogation de la loi Pierrefitte, acte fondateur de la culture de l'excuse. Aujourd'hui, c'est toujours très sur le devant de l'actualité, etc. Quoi, il y en a 50. Et on s'aperçoit que, finalement, ce pays, il y a 50 ans, c'était un pays qui était riche, qui était respecté. Et tout ce qu'on a perdu en 50 ans, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. À l'époque, les Français étaient confiants dans l'avenir, désireux de partager un projet collectif. Et puis, depuis un demi-siècle, c'est un lent déclin de notre pays. Mmh. Et quand on a tous ces chiffres qui nous sautent au visage, ça fait froid dans le dos. Ça, c'est le constat.
Toutes ces dates.
Maintenant, il va falloir réagir.
Et c'est passionnant parce que ça désigne clairement les responsables. Hein. Et, les décisions, etc. C'est
une
très, très bonne idée. Damien Chalamel,
qu'avez-vous
retenu cette semaine ?
Des réjouissances. Hein.
Voilà.
J'ai retenu la mise en œuvre des accords de Turnberry. Vous savez, ce sont des accords de libre-échange, enfin, dans un sens plutôt que dans un autre, conclus entre l'Union européenne et les États-Unis, il y a maintenant un an de ça, et qui attendait d'être mis en œuvre, que le Parlement européen donne son aval, et que les États membres donnent leur aval, les 27 États membres, ce qu'ils ont fait jeudi dernier. Pour faire simple, c'est un accord qui...
On n'a pas beaucoup entendu parler.
On n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on en a parlé il y a un an, mais maintenant c'est là que les choses sont mises en œuvre. C'est maintenant qu'elles rentrent en œuvre. Il faut dire que M. Trump nous avait dit que ça devait être mis en œuvre avant le 4 juillet. Sinon, il allait y avoir de sérieuses mesures de rétorsion.
Rappelez-nous l'accord.
L'accord, c'est un accord qui exonère de la totalité de droits de douane les produits industriels américains et qui, en revanche, en moyenne, triple les droits de douane européen et ouvre un certain nombre de contingents, notamment en matière agroalimentaire, qui existaient auparavant pour limiter les importations américaines et qui par ailleurs obligent dans des montants considérables, centaines de milliards, l'Union européenne ou les pays qui la composent, d'importer de l'énergie des États-Unis et également de faire un certain nombre d'investissements aux États-Unis. Donc c'est un accord, c'est une capitulade. Et alors ce qui était très intéressant, puisqu'on va parler du Brexit.
Après des décennies et des décennies, on nous a dit l'Europe, voilà. Il faut faire l'Europe pour être fort.
C'est la confusion entre la souveraineté et la puissance.
On est rançonné.
Si on veut, mais si vous voulez, vous êtes rançonné. Mais là, vous avez l'onction de votre idole, Madame von der Leyen. Et donc, c'est la confusion entre la souveraineté et la puissance.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit de mal de Mme von der Leyen.
Donc c'est effectivement, c'était un des leitmotifs au moment du traité de Maastricht, voire même au moment de l'excellent Brexit. Hein, c'était que l'Union, par le dépassement des États-nations, par la création de cet État fédéral croupion qui est l'Union européenne, allait à cette union, allait correspondre à un surcroît de puissance. Eh bien, on voit bien qu'à l'œuvre, bien évidemment, ça n'est pas le cas.
Voilà, c'est plutôt un surcroît de faiblesse. Deuxième triste nouvelle, j'espère qu'on va en avoir une gaie quand même. Gérard Gachet, qu'est-ce que vous nous avez mijoté ?
Je ne sais pas très gaie non plus, parce que suite à l'intervention de Jean-François Coulon-Désart qui racontait le rapport de l'Institut Thomas More qui élaborait les différentes étapes du déclin français. Je veux dire que ça s'arrange pas. La France est toujours l'absurdistan. Et on a une nouvelle preuve, puisque la mairie de Chessy, en Seine-et-Marne, a été condamnée à verser 6000 euros à un Algérien sous OQTF pour avoir refusé de le marier. Sachant qu'en plus, d'une part, l'homme avait reconnu que son but dans ce mariage était de régulariser sa situation, et que la femme, qui est une Finlandaise, je crois, est reparti déjà dans son pays, donc ils ne vivent même plus ensemble. Ce couple n'a aucune existence réelle. Malgré tout, pour avoir refusé de le marier, la mairie de Chessy a été condamnée à 6000 euros d'amende. Rappelons que Robert Ménard sera jugé pour le même motif. Robert Ménard, maire de Béziers, sera jugé le 30 septembre. Il risque quand même 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et d'être révoqué de son mandat municipal, donc c'est pas rien.
C'est hallucinant cette affaire. Hein.
Et oui. Et troisième fait qui date d'hier sur ce même dossier, eh bien il y avait un texte, un projet de loi d'Éric, une proposition de loi d'Éric Ciotti interdisant justement le mariage blanc, interdisant que des mariages blancs puissent être célébrés en mairie et consacrés en mairie.
Le QTF.
Voilà. Et les gens sous EQTF, et c'était dans la tranche parlementaire de l'UDR, donc du Paris d'Éric Ciotti. Il devait avoir, paraît-il, le soutien du ministre de Gérard Darmanin, du ministre de la Justice. Le soutien, il n'y en a pas eu, mais en revanche, il y a eu bien entendu une obstruction considérable de tout le groupe La France Insoumise.
300 amendements.
Qui a déposé plus de 300 amendements, qui se sont relayés au micro pour garder le temps d'antenne, si j'ose dire, et le temps d'écoute, et donc pour empêcher finalement que ce texte puisse être adopté. Donc voilà, donc on est toujours dans cette situation absurde où des gens, encore une fois, qui ne devraient pas être sur le territoire français, c'est quand même la base, eh ben, ils ne devraient pas être là, mais malgré tout, les élus, j'en sais quelque chose, les élus sont obligés de les marier, obligés à l'heure actuelle, de les marier.
Et dans la mairie, le maire a été condamné à 6 000 euros et à 1 500 euros à donner au type qui s'est marié à l'OQTF. 1 500 euros d'amende.
Effrayant.
Et vous pourrez rappeler à nos auditeurs que c'est sous Nicolas Sarkozy que l'on a abrogé le délit pénal pour séjour irrégulier.
Mais là, c'est même pas ça.
Oui, non, mais parce que
c'est la Convention européenne des droits de l'homme, là, pour l'instant, qui nous oblige à célébrer le mariage d'une personne, quel que soit son...
J'entends bien. Non, mais vous comprenez bien que ces personnes-là, si ce délit pénal était encore en vigueur, elles seraient potentiellement dans nos prisons. Voilà.
Oui, potentiellement.
C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'était effrayant. C'est-à-dire que les gens...
Ça n'a plus rien à voir avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a nombre de pays européens qui, jusqu'à Nicolas Sarkozy pour la France, et mettre effectivement... en prison, considère que c'est un délit pénal que de se maintenir irrégulièrement sur le territoire.
Mon cher Damien Chalamel, je suis obligé de vous dire qu'en tant qu'élu local, j'ai célébré des dizaines de mariages de ce type, en râlant, en allant voir le ministre de l'Intérieur, en essayant de... Je l'ai célébré parce que j'y étais obligé, et c'était avant Nicolas Sarkozy que j'ai dû faire cela. Donc, déjà à l'époque, on était contraints.
Oui, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est intéressant cette discussion.
Damien Chalamel,
ça veut dire qu'effectivement, et je vois tout à fait la situation dans laquelle se retrouvait notre ami Gérard. C'est-à-dire qu'en réalité, les candidats au mariage étaient potentiellement des délinquants, mais que les pouvoirs publics s'abstenaient de réprimer. Alors même que la loi les y obligeait, mais c'était obligé à mettre condamner et à réprimer les personnes qui se maintenaient irrégulièrement sur le territoire français avant même qu'ils se passent devant le maire.
Mais ça n'empêchait pas de les marier, malheureusement. Non, mais c'est même s'ils étaient en prison. D'ailleurs, au départ, cet aménagement de la Convention européenne des droits de l'homme était fait pour les prisonniers et pas pour des migrants entrés irrégulièrement, puisque c'était fait dans les années 50, ce texte. Au départ, c'était fait pour que les gens en prison aient le droit au mariage. On considérait que c'était une meilleure chance de réinsertion par la suite. Mais comme le texte ne précisait pas qu'il fallait être en situation régulière sur le territoire, puisque le problème ne se posait pas dans ces années-là, et bien du coup, c'est resté. C'est et tout ce qui n'étant pas interdit étant autorisé, beaucoup de gens se sont engouffrés dans cette brèche.
Ouais. Voilà. C'était extraordinaire.
Surtout la justice.
On a des personnes qui violent nos lois et qui ensuite s'appuient sur nos propres lois pour revendiquer des droits. Hein, c'est ça ouais. Après ça, les avoir violés.
Et il y a des associations qui les aident,
absolument,
qui les soutiennent et qui les encouragent.
On en parlera tout à l'heure.
Avec l'argent du contribuable.
Absolument. Voilà, alors moi j'ai retenu, alors bon, je vais pas, pardon, ça va pas être beaucoup plus gai non plus, hein, décidément, cette semaine, le cas de ce petit Louis, vous avez vu, 17 ans, qui a été découvert sur un terrain vague de Narbonne par un ouvrier après une nuit d'agonie. Il est mort des suites de ses blessures, il a été lynché, passé à tabac, par 5 racailles. Et ces meurtriers ont filmé la scène. Enfin bref, tout cela est absolument épouvantable. Franchement, ça dépasse les mots. Et surtout, ça vient après le sort tragique de Liana, de Lola, de Philippine, de Thomas, de Mathis, de Quentin et de bien d'autres. et de bien d'autres. Et moi, je suis frappé de voir quand même comment dans notre pays, comme au Royaume-Uni d'ailleurs, on traite nos enfants. Voilà. Cette civilisation dont la gauche estime qu'on arrive à des droits individuels extraordinaires, qui revendique des tas de trucs, traite ses propres enfants comme jamais on a traité ses esclaves dans les temps les plus difficiles d'autres civilisations. Il y a des générations qui sont amputées par 200 000 avortements annuels, il faut le dire, et ceux qui restent, ils font face à la sauvagerie insoutenable dont a été victime le jeune Louis, de la part de la France multiculturelle qui a été imposée sans vote d'ailleurs par la classe politique dominante. Voilà, c'était mon petit clin d'œil, pardon d'avoir peut-être un peu plombé l'ambiance.
Mais... Non, mais on avait commencé.
mais vous aviez commencé. Voilà, allez, édito. La petite cuisine pro-migrants et anti-extrême droite de d'Utopia 56. Vous connaissez cette organisation, d'Utopia 56. Tout cela aux frais du contribuable.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Le 18 avril 2026, Libération publie une enquête à la une sur fond de militants encapuchonnés bras tendus. Comment les impôts financent les fachos ? Qui sont ces affreux profiteurs d'impôts ? Je vous le donne en mille, il s'agit de Radio Courtoisie, Academia Christiana, l'Institut Iliade, etc., etc. Ces associations de droite ont donc le culot de faire appel légalement à un dispositif dont leurs camarades de gauche usent et abusent depuis des années à ciel ouvert. Avec le zèle démocratique bien connu des communistes, le député Éric Coquerel s'est aussitôt saisi de ce scandale cousu main. Pour que les impôts cessent de financer les associations d'extrême droite, mais continuent à financer, bien sûr, les associations d'extrême gauche. On vous en parle depuis plusieurs jours, notamment sur Radio Courtoisie, pour une fois, mais aussi sur Boulevard Voltaire et dans d'autres médias. Pour une fois, la droite a résolu de ne pas se laisser faire. Via une grande campagne, baptisée « Leur business, nos impôts », Radio Courtoisie, donc l'Incorrect, Boulevard Voltaire, Logim et quelques autres se font un plaisir de rappeler nos amis censeurs à la dure réalité. L'argent public coule à flot, d'abord et surtout, pour leurs amis. Par simple curiosité, Boulevard Voltaire s'est donc penché dans ce cadre sur la célèbre association avocate des migrants hors la loi, l'association Utopia 56. C'est moi qui me suis chargé de me pencher sur ces comptes. Alors d'abord, les derniers comptes d'Utopia 56, publiés au journal officiel, portent sur l'année 2021. Ça fait tout de même 5 ans. Plus curieux, outre les cotisations annuelles de ses bienfaiteurs, Utopia a perçu en 2021 704 000 euros de concours publics et subventions d'exploitation, je cite entre guillemets. À quel titre ? Eh bien, nous avons posé cette question et quelques autres à Utopia 56 via son site web. Nous n'avons à ce jour pas reçu de réponse. Ça n'empêche pas cette association très subventionnée, donc, d'insister lourdement dans ses appels aux dons sur l'absence d'aide de l'État. Dans un email du 21 mai 2026, qui était adressé à ses donateurs, Utopia, et dont on s'est procuré, Utopia assure la main sur le cœur, nous ne recevons aucune aide de l'État et ne l'accepterions pas s'il en proposait, bien sûr. Bon, ça fait quand même 704 000 euros d'aide. Quoi qu'il en soit, ces bons apôtres, si attentifs à ceux qui violent nos frontières et si indifférents à la pauvreté de nos campagnes, promettent une réduction d'impôts égale à 75% du montant de votre don, dans la limite de 2000 euros de dons par an et de 66% sur le reste. Voilà, au cas où des auditeurs de Radio Courtoisie souhaiteraient aider Utopia 56, c'est exactement ce que Coquerel reproche aux associations de droite en plus gourmand. Tout cela finance notamment des appels anti-extrême droite. Je cite toujours Utopia 56, l'extrême droite représente une menace considérable si ce n'est pas la première menace, écrit l'association, qui sonne le tocsin. Tous les jours, sur le terrain, nous constatons sa violence, celle de l'extrême droite, évidemment, son racisme et son hostilité à l'égard des personnes exilées, voilà ce qu'assure Utopia 56, on a vu politiquement plus neutre. Éric Coquerel devrait se pencher sur ce cas de financement indirect par les impôts des Français de cette association qui profite de la législation, je cite Libération, profite de la législation sur la défiscalisation des dons censés aider des associations d'intérêt général pour se financer. C'était exactement les propos de Libération. Vous voyez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en gros. Voilà, belle enquête, hein, en tout cas, de Radio Courtoisie sur le financement du laboratoire d'idées de Mélenchon, l'Institut Laboétie, je vous la recommande, présidé par Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet, le tout financé par les réductions d'impôts, hein, les vôtres, enfin en tout cas, par le budget de l'État. Voilà, qu'est-ce que ça... Est-ce que vous avez vu passer cette polémique les uns et les autres Gérard Gachet.
J'ai une petite anecdote sur Utopia 56, si ça m'abuse.
Ah, mais oui.
C'est lorsque j'étais il n'y a pas si longtemps adjoint au maire de cet arrondissement, le 16e, où nous nous trouvons.
Aye.
Et nous avions eu un moment une série de deux ou trois tantes quechua, comme on les connaît bien, qui s'étaient installées sur la place Victor Hugo, devant l'ancienne église Victor Hugo, etc. Avec bien sûr des migrants en situation irrégulière à l'intérieur. Alors on a essayé, parce que vous savez qu'on ne peut plus faire partir les gens de force maintenant, il faut qu'ils soient d'accord pour quitter, donc on a essayé d'aller les voir, de leur expliquer qu'il allait mieux. Il y en a deux qui sont partis très vite, mais une troisième qui s'obstinait, etc. Et on passait, la police municipale faisait des contrôles, nous on faisait des... On y avait également des maraudes qui venaient les voir la nuit pour leur expliquer qu'il serait peut-être mieux, parce que c'était en plein hiver, qu'il serait peut-être mieux ailleurs. Et puis un beau jour, ils ont accepté de partir et ils sont partis. J'ai dit, bon, bah, au moins le problème est pour l'instant résolu. Deux jours après, les mêmes de retour. Alors on va les voir, on dit, mais pourquoi vous êtes revenus? On vous avait trouvé en plus une solution de foyer, etc. C'est Utopia 56 qui est venu nous voir et qui nous a expliqué qu'il valait mieux revenir sur la place Victor Hugo avec notre tente, parce qu'on était beaucoup plus visible et que c'était beaucoup plus facile pour mobiliser les gens autour de nous que si on était reparti dans un foyer qui est devant. Voilà, complètement.
Et effrayant, c'est effrayant. L'anecdote en dit long, merci Gérard Gachet. Voilà, et je recommande aussi l'enquête de l'Incorrect sur le financement en partie par des impôts, toujours comme d'habitude, de SOS Racisme, près des deux tiers de subventions publiques dans leur budget. Voilà, Damien Chalamel, vous avez vu passer tout ça?
Malheureusement non, mais ce sont les tartufferies de l'antiracisme, qui est un racisme anti-français, anti-européen, et dont on voit que, au-delà de la mauvaise cause qu'ils défendent, il fait vivre les intéressés. Et en ces temps de disette budgétaire, bien évidemment. On sourit, mais on désespère de voir le déficit français s'être réduit, alors même qu'il y aurait effectivement un certain nombre d'économies à faire en la matière, ne serait-ce qu'en améliorant les ressources fiscales de l'État, en les privant ces associations du bénéfice de ces bénéfices fiscaux, parce que bien évidemment, on comprend bien que la faculté de déduire de ces impôts une partie des dons que l'on fait à des associations à but non lucratif est subordonné à la notion d'intérêt général. On comprend bien que la plupart de ces associations ne poursuivent pas
particulièrement manifeste avec l'Institut Laboétie, qui est présidé par Mélenchon et Clémence Guettet. L'intérêt général, là, c'est comme
même si l'intérêt pour Clémence Guettet n'est pas négligeable.
L'intérêt personnel.
Voilà.
Mais c'est pas l'intérêt. Je me souviens de la campagne des municipales et Sarah Knafo qui avait fait un travail formidable. Et très bien présenté ce qu'elle voulait faire à Paris et surtout d'où on venait. Et dans les associations soutenues par la... Gérard pourra opiner du chef, je pense. Les ont soutenues par la ville de Paris, c'était des centaines de millions et c'était n'importe quoi. Il y avait... on donnait de l'argent pour la lutte LGBT, queer, XTWTZ au fin fond de l'Afrique, un pays africain. C'était n'importe quoi. Ben, ça me fait penser un petit peu à ça, là, vous avez raconté, vous voyez. Et l'État aussi, grand pourvoyeur d'argent pour les associations, on pourrait, quand vous pensez que, si vous lisez le budget de cette année, c'est assez austère comme lecture, ça c'est sûr, quand il est arrivé tard en plus cette année, on balance 300 millions d'euros à la Chine pour le développement économique de la Chine, mais on se fout de qui?
Effrayant. C'est effrayant, la Chine qui nous ruine.
Les subventions de la mairie de Paris à SOS Méditerranée.
Absolument.
En spécialiste des passeurs de migrants, qui a reçu plusieurs fois, je crois, de l'ordre de 100 000 euros de subvention de la mairie de Paris.
De la mairie de Paris. Et de
320 bien... millions d'euros sous la reine Hidalgo, c'était 320 millions d'euros de subvention, mais c'était toujours un peu les mêmes associations. Hein. Ils étaient quelques dizaines d'associations. Ils donnaient beaucoup d'argent à une association qui s'occupait des migrants et qui payait des avocats pour lutter contre l'État. Donc c'est totalement schizophrénique.
Absolument. Allez, on va passer à la suite. Pourquoi les écologistes sont-ils si frileux face à la climatisation? On verra ça tout à l'heure avec notre ami Philippe Charlaise qui sera en ligne, expert en questions énergétiques. Vous le connaissez tous, c'est un habitué de l'émission. Là, il a pris ses quartiers d'été, mais il sera là par téléphone. Nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture. Tiens, moi, je vous parlerai du suicide français d'Éric Zemmour. Et me dire que je retarde un peu, mais non, parce qu'il arrive sur Canal+. Il a été traduit en épisode, en documentaire, en 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus, qui arrive sur Canal+. Mais d'abord, 10 ans plus tard, les Anglais regrettent-ils vraiment le Brexit ?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Desart et Gérard Gachet. Selon un sondage qu'on a lu partout en ce 10e anniversaire du Brexit, nos voisins britanniques sont inconsolables d'avoir quitté l'Union européenne. Les électeurs britanniques perçoivent le Brexit comme un désastre, explique le commanditaire de ce sondage. C'est un organisme inconnu qui s'appelle ECFR, retenez bien ce nom, je vous en parle dans la foulée. Les mêmes électeurs se montrent étonnamment ouverts, poursuit l'ECFR, étonnamment ouverts à une réintégration de l'île britannique au sein de l'Union européenne. Les trois quarts des Britanniques souhaitent un rapprochement avec l'Union européenne. Bon, fermez les guillemets, mais parfois ces sondages mérite d'être mis en perspective, sans qu'on en discute évidemment la véracité profonde. On peut se demander par exemple qui les a commandés. Le sondage qui fait pleurer les Anglais de remords a été commandé et payé donc par un lobby pro-européen radical, le European Council of Foreign Relations, pardon pour mon accent que je prononce à côté d'un vrai anglais, j'ai un peu honte, donc le fameux ECFR qui a fait l'objet d'une formidable et implacable enquête de Samuel Martin dans Boulevard Voltaire. On y apprend que l'un des membres les plus actifs et les plus connus en France de l'ECFR n'est autre que la députée macroniste ultra-européiste Nathalie Loiseau, et qu'il est lié au financier militant de la mondialisation, un certain Georges Soros. Et puis d'autres sondages outre-Manche portent largement en tête des intentions de vote. Un homme, l'homme du Brexit, Nigel Farage. 10 ans plus tard, donc, les Anglais regrettent-ils vraiment le Brexit? Pour éclairer ce mystère, nous recevons un sujet de Sa Majesté. Bonjour Leslie Shaw.
Bonjour Marc, et bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, vous êtes économiste, vous êtes ancien professeur à Subdeco et vous conseillez certains membres de l'équipe de Nigel Farage au Royaume-Uni. Hein, donc vous êtes un peu embarqué dans ce parti. Vous allez éclairer pour nous un petit peu ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous êtes le bienvenu, cher Leslie. Alors d'abord, est-ce que vous aviez vu ce sondage?
Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est pas le premier non plus.
Ce n'est pas non plus le premier. Alors, est-ce qu'il vous a surpris? Il ne dit pas, hein, d'ailleurs, ce sondage, que cet organisme, hein, le CFR, celui qui l'a commandé, hein, c'est donc... est lié à Georges Soros et que le fils de Georges Soros, Alexandre, est à la fois le président du conseil d'administration de l'œuvre de Soros, hein, et qu'il est membre du staff expert de l'ECFR. Hein, donc le lien est tout à fait évident, quoi. Hein, il suffit de regarder les statuts de l'ECFR. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de sondage? Est-ce que vous avez ça très fréquemment? Et est-ce que ça vous surprend?
Oui, bien sûr, ça ne me surprend pas du tout. En fait, c'est le résultat d'un flot incessant de propagande émanant de think tanks, de la presse, de la fonction publique même en Angleterre, qui remonte à l'époque avant le Brexit.
Ouais.
Et qui a commencé dès que David Cameron a annoncé en 2013 qu'il allait tenir un référendum sur le Brexit. Hmm. Cette décision de David Cameron.
C'est à ce moment-là qu'on a vu les vagues de propagande, ce que vous appelez la propagande, c'est exactement le même mot.
Cette décision de David Cameron, ouais. Qui était un europhile convaincu, était le résultat de la montée en puissance de Nigel Farage en Angleterre, qui avait quitté le Parti conservateur en 1993. Je fais un peu d'histoire, mais je crois que c'est important.
Aye.
Et il a fondé le parti UKIP, United Kingdom Independence Party, qui avait seulement deux objectifs. La sortie de l'Union européenne et le contrôle des frontières. Donc c'est un programme très précis.
Ouais.
Alors face à cette montée en puissance et au retour de l'euroscepticisme, Cameron a décidé d'aller devant le peuple et de tenir le référendum. C'est là que toute la propagande a commencé.
Ouais.
Notamment ce qu'on appelle maintenant le Project Fear, le projet de la peur. Et le chef de file était le ministre des Finances du gouvernement de Cameron, George Osborne. Donc il y avait quatre...
Le principal marchand de peur. Hein,
absolument. C'est ça. Donc il y avait quatre choses qu'il a dites pour effrayer le peuple. Il a dit que si on quitte l'Union européenne, on aura un chômage de masse. On aura la chute du prix de l'immobilier. Une hausse des impôts et l'effondrement du commerce du Royaume-Uni.
Oui, c'est ça. C'était le nuage de sauterelles. Je me souviens
c'est
très bien.
C'est un peu ça. Oui, oui. Voilà. C'était la peste qui allait arriver.
J'étais dans un magazine économique à l'époque qui tartinait abondamment sur le nuage de sauterelles, la ruine absolue. Oui, oui. Ça serait transformé en un désert épouvantable où les gens mourraient de faim les uns après les autres en se dévorant pour essayer de survivre.
Comme les Britanniques.
Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure.
Oui.
On comparera la croissance du PIB depuis, chiffre très simple, la croissance du PIB depuis le Brexit, de la France et du Royaume-Uni. Et on verra si le désastre est si évident que cela. Est-ce que le regret du Brexit est si important que cela? Parce que dans les sondages, il y a évidemment un petit peu plus de regrettants, mais pas beaucoup en réalité. Est-ce que c'est si important? Et donc, d'après vous, est-ce que c'est le fruit vraiment d'une propagande intensive?
Ça existe.
Ouais.
Donc, le référendum a donné un résultat 52% pour et 48% contre.
Ouais. Ça, c'était à l'époque du référendum.
Oui, oui, c'était en 2016, c'était il y a 10 ans. Ouais. Mais,
voilà, il y a 10 ans.
En fait... ces campagnes de propagande et des chiffres avancés par diverses sources ont quand même semé le doute au sein de ceux qui avaient voté pour le Brexit. C'est aussi le résultat de la trahison de leur vote par Boris Johnson, qui est devenu le Premier ministre juste au moment de la sortie.
Ouais, après le...
Parce que la raison principale pour le vote Brexit. Du Brexit, ouais. c'était pour stopper l'immigration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Brexit, Boris Johnson et son gouvernement ont autorisé l'entrée de presque 4 millions d'immigrés légaux.
C'est-à-dire entre le Brexit et aujourd'hui, c'est ça?
C'était pendant 3-4 ans après le Brexit.
Ah oui.
Ça s'appelle le Boris Wave. C'était pendant son administration.
C'est sous Boris Johnson.
Absolument. Oui, parce qu'en fait, même s'il a mené campagne pour le Brexit, c'est quand même un mondialiste.
Ah oui, c'est un
libéral mondialiste. L'idée, c'était de faire venir la main-d'œuvre bon marché pour les grandes entreprises.
Et donc, évidemment, les Anglais qui avaient voté pour le Brexit ont été très déçus de voir arriver cette vague immigrée dont ils pensaient se prémunir. Hein, c'est ça
absolument.
Que vous
voulez
dire.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, en 2024, ils ont voté pour le Parti travailliste pour punir les conservateurs.
On va appeler, nous avons avec nous, je crois, Jeremy Stubbs. Bonsoir, Jeremy.
Allô ? Bonsoir, Marc.
Bonsoir, cher Jeremy. Alors, vous êtes bien connu, vous aussi, de nos auditeurs. Vous êtes déjà venu dans l'émission et puis vous apparaissez parfois sur CNews. Vous êtes surtout, vous avez des fonctions à la rédaction en chef du magazine Causeur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes vous aussi un sujet de Sa Majesté, hein. Et je voulais simplement vous demander si les Anglais regrettaient le Brexit, hein, ce que disait notre invité à l'instant, et si oui, pourquoi ?
Eh bien, il faut creuser le sens de ce mot « regretter ». Selon les sondages aujourd'hui, il y a une majorité de Britanniques qui pensent que le Brexit, c'était une mauvaise idée. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes, pour la plupart, qui ont voté pour le Brexit en 2016. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ceux qui étaient pour le Brexit en 2016 étaient âgés. Et aujourd'hui, ils ont quitté ce bas monde pour un meilleur, on l'espère.
Ah,
donc ce ne sont pas les mêmes personnes. Ouais. Ouais. On n'est pas en train de demander à quelqu'un qui a voté pour le Brexit en 2016, est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous regrettez votre action ? Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aussi ajouter à un autre facteur qui est que les sondages montrent aussi qu'une majorité de Britanniques ne pensent pas que ce serait une bonne idée de retourner au sein de l'Union européenne.
Oui, alors absolument. Membre. Alors ça, c'est un peu maquillé hein, par ce sondage de l'ECFR. J'ai cité la manière dont ils présentent ça. Ils le maquillent un petit peu, mais de fait, ils sont pour des accords avec l'Union européenne, hein, c'est ce que dit le CFR, hein, le sondeur un peu partial, mais ils ne sont pas pour une annulation du Brexit. Hein.
Oui, oui, il y a d'ailleurs plusieurs sondages qui montrent que une fois qu'on demande à la population britannique « Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de rejoindre l'Union européenne ?» Il faut se soumettre aux règles de la marché unique. Une majorité disent non, ce n'est pas la peine. Et de toute façon, personne de sérieux ne propose en ce moment de faire demi-tour et de redevenir membre, même pas Starmer, même pas Burnham qui va le remplacer. Ils ont compris. Et puis de l'autre côté de la Manche, en Europe, les Européens ne sont pas prêts à c'est pas une porte tournante.
Oui.
Vous sortez quand vous voulez, vous rentrez quand vous voulez, vous tournez en rond. Non, si vous revenez, il y aura un prix très élevé à payer. Oui. Le Royaume-Uni n'est pas prêt à payer. Donc
qui s'ajoutera au prix déjà payé.
Voilà. Donc et puis entre-temps, il y a maintenant Giorgia Meloni d'Italie qui demande une ristourne, comme l'avait fait Thatcher. Donc on ne peut pas multiplier le nombre des membres qui ont des ristournes.
Oui, oui, je comprends.
Sur les frais.
Je comprends.
I want my money back.
Voilà.
C'est ça.
Jeremy, Leslie Shaw, qui est avec nous, avait une et que vous connaissez, je crois, avait une question ou une remarque.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jeremy, mais je dirais, peu importe l'avis des électeurs maintenant, s'il n'y a pas un deuxième référendum, le gouvernement travailliste peut dans l'avenir négocier des accords avec l'Union européenne sans passer devant le peuple. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire.
Je pense que pour faire ça,
Jeremy Stubbs,
il faudrait une majorité au Parlement qui soit en faveur, ce qui est peu probable. De toute façon, je pense que bien que les travaillistes aient une grande majorité maintenant, ils vont la perdre très vite lors des prochaines élections. Et il n'y a même pas à mon avis, il n'y a même pas une majorité.
Donc pour
de
vous,
députés travaillistes qui connaissant l'opinion de leurs électeurs, les trahiraient comme ça. Donc
le pour vous, c'est
destiné à être indépendant pendant encore pas mal de temps.
La porte est fermée. Jean-François Coulon-Désart.
J'ai une question pour vous deux, pour Jérémy Stubb et Leslie Shaw. Est-ce que depuis 10 ans, les Anglais vivent mieux?
Leslie Shaw, allez.
Ça dépend de qui.
Parce que c'est un peu le but.
Ça dépend de qui. Ceux qui ne travaillent pas, qui dépendent des allocations, vivent mieux, y compris des centaines de milliers de migrants qui sont arrivés soit légalement, soit illégalement. Ces gens-là vivent mieux grâce aux contribuables britanniques.
Jérémy Stubb, c'est aussi votre avis?
Les Britanniques ne vivent moins bien. Pourquoi? Eh bien, il faut désigner en premier lieu le Covid, ensuite l'inflation résultant de la guerre, et ensuite les tarifs de M. Trump.
Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil en France, on peut aussi mettre ça pour tout le monde.
La France et l'Allemagne sont dans un pire état aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, on est tous logés à la même enseigne.
Alors,
et puis, pour juste ajouter à ce que disait Leslie, depuis le Covid, il y a un nombre impressionnant de Britanniques qui ont quitté le marché de l'emploi et qui vivent d'allocations d'incapacité au travail, ce qui est un scandale. Et bien sûr, ces gens-là vivent sans rien faire du tout. Et c'est ça ce qu'il y a de moins acceptable.
Jeremy Shaw.
Oui, l'autre chose très inquiétante.
Leslie Shaw, pardon.
L'autre chose très inquiétante, c'est le nombre de Britanniques, surtout des jeunes, qui s'en vont.
Ils vont où?
À cause de la politique fiscale.
Ils vont où?
Ils vont en Italie. Je connais personnellement pas mal d'Anglais assez fortunés qui sont partis vivre en Italie.
Les Français aussi.
À Dubaï. Ouais.
C'est un peu trop la côte, Dubaï, en ce moment.
Non, pas depuis un certain temps. Donc, il y a des centaines de milliers qui quittent la Grande-Bretagne. Oui. Et maintenant, même des jeunes qui cherchent une carrière ailleurs.
Ouais.
Parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans leurs propres pays.
Alors, je ne voulais pas vous contredire, parce qu'évidemment, vous connaissez ça par cœur, mais enfin, j'ai tout de même regardé les chiffres. Et j'ai comparé l'évolution du PIB, vous savez, le produit intérieur brut anglais par habitant, au PIB français. J'ai regardé leur évolution depuis 10 ans. L'évolution du PIB français par habitant et l'évolution du PIB anglais. Et le PIB français a progressé en 10 ans de 29%, et le PIB anglais, eh bien, il a progressé de 37,5%. C'est-à-dire que depuis le Brexit, et contrairement à ce que nous chantent tous ces mondialistes, le PIB par habitant anglais, alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait de la pauvreté, etc., c'est une moyenne économique, mais enfin, qui est largement admise, a progressé beaucoup plus vite, sa progression est très supérieure à celle de la progression du PIB français, ce qui tente à démontrer quand même que le Brexit n'a pas été un handicap si important que cela au développement de la Grande-Bretagne, et ce qui contredit évidemment toute la propagande dont vous parliez, Leslie Shaw, tout à l'heure, avant le Brexit et aussi depuis, et qui voulait essayer de montrer qu'il y aurait des nuages de sauterelles absolument épouvantables au Royaume-Uni. Eh bien, il y en a eu moins qu'en France. Voilà,
oui.
Le résultat.
Mais je pense que, bon, si on veut régler cette question, est-ce que le Brexit était un échec ou pas, il faut regarder 6 éléments. Premier élément, c'est la souveraineté législative. C'était l'objectif principal. Le Royaume-Uni n'est plus soumis aux lois de Bruxelles ni aux arrêts de la Cour de justice européenne. Deuxième chose, ils ont retrouvé la liberté de négocier des accords commerciaux avec le reste du monde. Avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec les États-Unis,
c'est-à-dire
avec le partenariat transpacifique. Deuxième chose. Troisième, comme vous venez de dire, il n'y a pas eu d'effondrement de l'économie, au contraire. Quatrième élément, la gestion indépendante des crises. Le Royaume-Uni a eu le vaccin bien avant l'Union européenne, ouais. parce qu'ils s'y sont mis tout de suite. Ils n'avaient pas à attendre l'avis de Bruxelles. Pareil pour l'Ukraine. L'Angleterre a commencé à aider l'Ukraine avant les pays de l'UE. Enfin, Londres, c'est une autre prévision des Cassandres du Brexit. Londres est toujours une des plus grandes places financières du monde.
Absolument.
C'est le Project Fear, on dit que, toutes les banques vont quitter Londres pour venir à Paris. Même Macron disait ça. Ou Francfort, ça ne s'est pas arrivé. Mais le sixième élément, c'est là où le Brexit est un échec total. C'est l'immigration.
Jeremy Stubbs, l'immigration, c'est vraiment le grand échec du Brexit. Ça explique son impopularité relative.
Oui, en fin de compte, ces problèmes d'immigration ne sont pas vraiment toujours la faute du Brexit, mais la faute à la fois d'erreurs d'hommes politiques spécifiques, mais aussi de tendances à long terme qui se développaient. On a entendu tout à l'heure Leslie qui parlait de la vague Boris, comme on dit. À partir de 2021, Boris Johnson a assoupli le régime des visas parce que le Royaume-Uni avait besoin de main-d'œuvre. Et la plupart de ces immigrés légaux, légaux, ce sont soit des gens peu ou pas qualifiés pour travailler dans le secteur de la santé ou des soins, c'est-à-dire dans les EHPAD, etc., etc., soit un nombre énorme d'étudiants étrangers, parce que le système universitaire britannique est carrément drogué à l'argent des étudiants étrangers. Donc, on a eu cette grande vague. Le problème, c'est que les gens arrivent sur un visa de travail ou d'études et beaucoup veulent rester après et commencent tout le cycle d'examiner chaque cas, de vouloir dire non ou peut-être et ainsi de suite. Donc, un grand nombre de ces personnes qui sont arrivées restent. On aurait peut-être pu éviter. Mais, en même temps, il y a tous les clandestins, les illégaux. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit. Les migrants sans documents, clandestins, illégaux, ils créent plus d'inquiétude au sein du public que les immigrés avec des visas. Et ces personnes-là seraient arrivées avec ou sans le Brexit. Ouais. Donc le Brexit n'est pas entièrement responsable de la situation, mais il est vrai que, comme en France d'ailleurs,
le Brexit a bon dos, en gros.
L'immigration est un sujet préoccupant.
Merci Jeremy Stubbs. Je vous laisse au bouclage de l'excellent magazine Causeur qui vous occupe. Merci pour votre éclairage, c'était passionnant. Ça montre que le sujet est plus complexe que la manière dont le présentent nos européistes. Merci Jeremy.
Bonne soirée messieurs.
Bonne soirée à vous. Gérard Gachet, vous aviez
On vient de dire que l'échec du Brexit, c'était le contrôle des migrations, puisque c'était même, au départ, c'était un des mots d'ordre, take back the control. Ça n'a pas eu lieu. Et je dois dire qu'il y a quelques jours, Jérôme Fourquet, que l'on connaît bien, le directeur des départements opinion de l'IFOP, a rendu public une étude qui est quand même extraordinaire sur ce plan-là, c'est-à-dire l'évolution des prénoms donnés en Grande-Bretagne, des prénoms donnés aux enfants en Grande-Bretagne. Je cite son étude, « On est passé de 5% de nouveau-nés qui recevaient un prénom arabo-musulman en 1996 à 15% aujourd'hui, trois fois plus, 30 ans après. De manière encore plus emblématique, je cite toujours, le prénom Muhammad est devenu le prénom masculin le plus donné en Angleterre et au Pays de Galles en 2024, alors qu'il était 108e prénom en 1996. Donc ce prénom Muhammad représente à peu près 23% de l'ensemble des naissances recevant un prénom arabo-musulman masculin, ce qui est un marqueur en plus de religiosité de cette population musulmane. Donc c'est vraiment un...
C'est vraiment révélateur. Ouais.
Et en parallèle, si on regarde les prénoms féminins, il y a un prénom qui était évidemment très présent en Grande-Bretagne, c'était le prénom Mary, mais à la fois avec la connotation religieuse qu'il avait, puis la connotation royale. Eh bien, Mary était le prénom féminin le plus donné en 1900. Aujourd'hui, enfin en 2024, il était passé au 337e rang des prénoms féminins donnés en Grande-Bretagne. Donc, c'est vraiment, cette évolution est quand même très caractéristique d'une évolution. Il n'y a pas que les gens qui sont morts du Covid dont on parlait tout à l'heure et qui ont quitté ce bas-monde, mais il y a les arrivants. Et les arrivants, manifestement, influencent la composition de la société britannique dans un sens tout à fait différent.
Leslie Shaw, hein, je rappelle que vous êtes un conseiller de plusieurs membres de proches de Nigel Farage aux États-Unis, au Royaume-Uni.
Pas encore aux États-Unis.
Évidemment, au Royaume-Uni. Oui, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais juste signaler, vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais en Angleterre, au Royaume-Uni, les statistiques ethniques ne sont pas interdites comme en France.
Ouais.
Par exemple, quand vous remplissez le formulaire du recensement, il faut mettre votre ethnie blanc, noir,
géorgien,
etc.
Ouais.
Donc, ils ont des statistiques et j'ai un ami, Matt Goodwin, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Suicide of a Nation, Suicide de la Nation.
Ouais.
Je ne sais pas s'il a été inspiré par Zemmour, mais dans ce livre, il fait des prévisions basées sur les statistiques du gouvernement, sur l'évolution de la population anglaise dans les 50 prochaines années.
Oui, mais justement, puisque vous avez des statistiques...
Jean-François Coulon-Désart, et puis on va appeler Samuel Martin.
Oui, mais juste, c'est très court. On en a pas, nous, on n'a pas droit aux statistiques en France. Vous avez droit, donc, en Grande-Bretagne. Qui sont les gens qui viennent? C'est surtout des Pakistanais, parce que c'est pas le même... Ils viennent pas du même endroit du monde qu'en France.
Alors, pour les Pakistanais, il faut remonter à la loi de nationalité de 1948, qui a donné à tous les citoyens du Commonwealth le droit de venir s'installer au Royaume-Uni. En 1951, il y avait 10 000 Pakistanais au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions. Donc, ça vous donne une idée de l'évolution.
Les autres migrants.
Ben, les autres, il y a tous ceux des anciennes colonies, les Caraïbes, l'Afrique, pas trop de l'Australie ni de la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'Irlandais. Mais maintenant, c'est de tous les pays du monde, même les pays qui n'ont jamais eu de relations avec le Royaume-Uni, l'Irak, l'Érythrée, la Syrie...
La France.
La France.
Alors, tout cela s'accompagne d'une offensive pour que l'opinion reste sous contrôle. On va voir ça avec un épisode qui a été creusé par notre ami Samuel Martin, qui est rédacteur en chef à Boulevard Voltaire, et qui a fait un article absolument passionnant sur la machine à penser correcte anglaise. On va l'appeler, on l'aura tout à l'heure dans quelques instants.